Sachez que j'ai fait mon resto avec Esaïe, hein, qui avait gagné un restaurant parce qu'il se souvenait de quelques points de la prédication avant qu'il parte, juste avant qu'il parte. Hein, il partait le lundi, on s'est vu le mardi, on s'est vu le lundi. Donc ça a été fait. Hein. Je ne suis pas un menteur. Non, quand je m'engage, Arnaud, c'est bon. Ça se fait. Mais là, mon portefeuille commence à être léger, tu vois. Donc le resto sera pour le mois prochain. Oui, Paul. Merci. Alors, la semaine passée, on a passé un peu de temps sur le passage du sermon sur la montagne de Jésus, en Matthieu 6, et on s'est arrêté sur ce verset clé qui dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grands ?» C'est que je vous avais donné des exemples de choses qu'on croit être la lumière, et Jésus dit « Attends, peut-être que ta façon de penser, ta façon d'être, ton caractère, ton attitude, toi tu penses que c'est droit, que c'est correct devant moi, mais ce sont des choses un petit peu insidieuses, cachées, qui parfois sont des petits, des rivaux de Dieu dans notre vie. On a dit que si Christ est vraiment notre Seigneur, ces rivaux-là, ben, il faut les mettre de côté. Et il faut pouvoir les déceler, se connaître soi-même, connaître les pensées de son cœur pour déceler ces petits rivaux. Je vous avais parlé également des tyrans, les tyrans qui sont dans nos vies et qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Ça va être toute forme d'addiction, toute forme d'animosité en nous qui nous pourrit la vie et qui finalement dirige nos choix et nos décisions. Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? C'est plus clair?
Oui.
Très bien. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce sujet-là, mais un peu avec un angle de vue un peu différent. Et j'aimerais qu'on parle de ces descentes qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément des chutes, mais c'est des micro-déplacements de nos cœurs. Vous voyez, des micro-déplacements, juste des choses qui se déplacent dans notre être, qui vont nous emmener à chuter dans certains domaines. C'est des choses qui parfois peuvent sembler vraiment imperceptibles et qui pourtant sont vraiment là. Et qui vont finalement entacher notre destin spirituel là où Dieu nous attend et là où nous sommes censés aller avec Dieu. Ok, vous me suivez? Et finalement, on se rend compte que la meilleure histoire, la plus belle histoire qu'on ait dans la parole de Dieu qui va nous parler de ça, c'est l'histoire de Lot. L'histoire de Lot est un exemple clair de comment on peut dévier finalement de ce à quoi on est appelé et comment on peut aller vraiment très loin. Alors, qui est Lot qui peut me répondre là-dessus? L'ami, c'est un pote? Le neveu d'Abraham. Lévi! Alors, bon, tu viendras à la prochaine étude biblique. Donc, c'est le neveu d'Abraham. Quand tu es le neveu d'Abraham, ça veut dire que tu pars bien dans la vie. Le père de la foi, celui qui a vraiment cette relation avec Dieu. Alors, j'ai regardé Sandy, elle m'a fait un sourire bizarre. Sandy, ma coupe, c'est normal. Ce matin, j'ai mis du gel et j'étais en retard, donc vous allez m'excuser pour ma coupe de cheveux. J'ai pas eu le temps d'aller chez mon coiffeur, Eric. Eric, il me regarde, il dit, c'est pas possible. Il monte sur l'estrade comme ça. Non, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur et ce matin, j'étais en retard. J'ai pris la trottinette, j'ai dit, les filles, on va à l'église. Et puis, j'ai pris un coup de vent et voilà ce qui se passe. Donc, faites abstraction de ça, s'il vous plaît. Hein? Là, je suis dans le vent. Le vent du Saint-Esprit m'a saisi ce matin. Au lever, et puis voilà, je suis là devant vous. Donc, je reviens à mon propos, excusez-moi. Donc, on a Lot qui démarre bien dans la vie, neveu d'Abraham. Il y a tout pour bien commencer. Voilà, vous imaginez le père de la foi, celui qui a une relation, on a entendu ce matin l'intercession, qu'être ami de Dieu, c'est quelque chose d'important, que c'est quelque chose qui se développe dans notre vie spirituelle, c'est quelque chose qu'on recherche. Et Abraham, on peut dire que c'était l'ami de Dieu. Et c'est le père de la foi et c'est un de nos modèles. Et donc, on va d'abord se poser la question en lisant Genèse 13, verset 13, si tu peux le lancer. On a un verset qui nous dit « Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel ». Donc, on sait que Lot a fini habitant de Sodome. Et il est dit que les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Et vous voyez, le péché beaucoup, on dit souvent qu'il n'y a pas de petit ou grand péché. Effectivement, péché devant Dieu est péché. Mais là, on insiste sur le fait qu'il péchait beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une récurrence dans le péché. Le péché est constamment là et on continue, on perdure, on se noie dans le péché. Tu vois, imagine La mère, elle est là, et puis c'est comme si c'était le péché, et puis tu peux venir tremper les bouts de pied et te dire, tiens, mais elle fait froid, je ressors. Eux, ils nageaient dedans. C'est un peuple qui nageait littéralement dans tout ce qui déplaît à Dieu. Et j'aimerais clarifier ce qu'est pour Dieu ce beaucoup péché contre l'Éternel, ce que l'Éternel n'acceptait pas. Et on va faire un point sur quel était ce peuple et ce dans quoi il tremblait. Parce que finalement, que veut dire la Bible ? À quoi ressemble cette méchanceté ? Parce que finalement, ils étaient méchants aux yeux de Dieu. Premièrement, c'est une société qui a rejeté Dieu. La première chose, c'est que la première caractéristique de Sodome, c'est que dans cette société, on a complètement mis Dieu de côté. Sa parole, on a mis de côté ses enseignements, on a mis de côté qui il est, et on a rejeté consciemment ses valeurs. Consciemment, les valeurs de Dieu ont été rejetées, mises de côté. On va faire à notre mode, on va faire à notre manière, on va faire ce qui nous plaît. Dieu, tu n'as rien à faire là-dedans. La société a refusé. Et bien pour Dieu, il ne suffit pas de tuer quelqu'un pour être pécheur. Rejeter Dieu, le mettre complètement de côté, l'abandonner, c'est déjà être considéré comme méchant devant lui. Je te rejette. Tu n'as rien à faire dans ma vie. Vous n'aimez pas vous sentir rejeté. Vous aimez vous sentir rejeté? Non. Quand quelqu'un vous rejette d'une manière ou d'une autre, vous allez dire, mais il est méchant envers moi. Ben, c'est la même chose qui est produite dans le cœur de Dieu. Il se sent, ah, pourquoi il me met de côté? Alors, la première chose, c'est ça. C'est comme si Dieu n'existe pas. La deuxième chose, c'est une injustice et des violences banalisées dans cette société-là. L'injustice, c'était normal. Et Sodome n'avait pas juste une mauvaise réputation, mais c'est une société où régnait clairement la violence, l'injustice, l'exploitation des autres, l'égoïsme régnait. Et le prophète Ézéchiel, au chapitre 16, versets 49 à 50, va nous expliquer ça quelques années plus tard. Il va nous dire quoi ? Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. Elle vivait dans quoi ? Dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Donc celui qui était les malheureux, les pauvres, les gens faibles, étaient méprisés, on ne s'occupait pas d'eux, on vivait dans l'opulence. Tu vois. Il fallait bien vivre, il fallait bien manger, il fallait se faire plaisir, il fallait que réellement notre vie ce soit des paillettes tous les jours. Moi, je n'ai pas des paillettes tous les jours hein, dans ma vie. Mais eux, c'était des paillettes tous les jours. Et si toi, tu n'as pas de paillettes, on t'écrase, tu vois. Si c'est difficile pour toi, si tu es différent, débrouille-toi. La méchanceté régnait. C'est une ville où on pense d'abord à soi. On ferme les yeux devant la souffrance. On est insensible. Et l'insensibilité à l'autre est devenue banale. Voilà ce qu'était Sodome. La troisième chose, c'est une sexualité détournée. Sans limite et sans respect de l'autre. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, parce que si vous étudiez un peu les pratiques sexuelles dans cette, dans cette ville, vous allez vous enfoncer toujours plus profond dans votre fauteuil et vous allez vous dire « Waouh, c'est quand même costaud ». Et ils étaient complètement plongés dans tout ça. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Il y avait le mépris de la dignité humaine. On va loin. Les gens avaient perdu toute dignité. As-tu rencontré déjà quelqu'un qui a perdu sa dignité ? C'est quelqu'un qui n'a plus confiance en soi. C'est quelqu'un qui est complètement abattu. C'est quelqu'un qui ne sait plus qui il est. C'est quelqu'un qui n'a même plus d'identité. Ben voilà, les gens faibles finissaient comme ça. Méprisés. Le péché de Sodome, c'est vraiment le refus du cadre de Dieu dans toute... du cadre de Dieu pour la vie humaine, pour l'amour, la sexualité. Ensuite, la cinquième chose, c'était l'incapacité à se repentir dans cette ville. On peut lire en Romains 1, versets 1 à 21, c'est quelque chose qui finalement nous correspond pas mal ici et qu'il nous est dit pour le reste de l'humanité. On a une capacité parfois à se repentir face à notre péché, face aux choses qu'on sait être mauvaises. Eh bien, Sodome était en plein là-dedans. C'est ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Ma façon de vivre. Ma façon de penser. Et on s'égare. Eh bien, toutes ces causes devant Dieu font que pour Dieu, c'était une société méchante, remplie de beaucoup de péchés, d'une récurrence de choses comme cela. Alors pourquoi c'est grave? Tu pourrais me dire, mais c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. On vit comme on veut, on vit comme on le sent. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre comme ça, c'est mon choix, c'est ma décision. Oui, mais pourquoi est-ce grave? Qu'est-ce que ça a comme, finalement, comme application pour nous aujourd'hui? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mal commence par un cœur fermé. J'avais cette image-là pendant qu'on était dans la louange. Je vous ai parlé la semaine passée de la lumière. Dieu, c'est la lumière qui... Quand vous allumez la lumière dans une pièce noire, vous le savez, automatiquement les ténèbres s'enfuient. Sauf qu'avec Dieu, la lumière est venue, la lumière est descendue. La lumière s'est présentée devant nous au travers de l'Évangile. Mais on a le choix, c'est comme si tu es dans la pièce, il y a vous avez déjà eu des rideaux occultants qui ne laissent rien passer. Et bien quand cette lumière commence à chauffer le rideau, tu décides d'ouvrir ou tu n'ouvres pas. Tu as le choix, à tout moment dans ton cœur, de dire « ça chauffe là, je sens qu'il y a quelque chose de bon pour moi, je sais que c'est bon ». Ma conscience me parle, mais je choisis de ne pas ouvrir parce que finalement, je me sens bien dans mes ténèbres. Et tu peux te sentir bien dans tes ténèbres. Et c'est ce que disait Jésus. Il disait, mais en fait, quand tu crois que ta lumière est bonne alors qu'elle ne l'est pas, tes ténèbres sont vraiment grandes, oppressantes. Et parfois, on peut se sentir bien dans nos faiblesses, dans nos petits problèmes. Le mal commence toujours dans un cœur fermé, dans un rejet de Dieu. Je rejette Dieu. Je rejette sa pensée, je rejette ses valeurs. Et je ne te parle pas des valeurs chrétiennes, je parle des valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, que tu es assis ce matin, que tu es mieux que quiconque. Tous sont péchés. La question c'est, est-ce que les valeurs du royaume de Dieu sont inscrites dans mon cœur? Et est-ce qu'elles ont un impact dans ma vie et dans ma réalité? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'être ici ou d'être à l'église catholique ou d'être ailleurs. L'intérêt, c'est de dire, Seigneur, ta parole prend-elle vie en moi? Le mal a différents visages. Il ne suffit pas de faire des choses illégales, des choses graves pour être dans la méchanceté. Le péché touche tout le monde. Vous savez, Sodome, ce n'est pas une ville, une vieille ville, dans un vieux livre qu'est la Bible. Ce n'est pas juste ça. Ça reflète nos sociétés, aujourd'hui, actuellement. C'est la tendance du cœur à s'éloigner en toute conscience de Dieu, de choisir autre chose. Je n'ai pas besoin de toi, je fais comme je veux. Cette pensée-là est tout simplement la première des choses qui va faire que tu vas commencer à t'approcher de Sodome de plus en plus, de plus en plus. Alors, on va lire Genèse 13, versets 10 à 13, l'histoire de Lot. Maintenant, vous avez compris où, dans quel contexte nous sommes. On va lire les versets. Lot, alors, pour vous redonner un petit peu de contexte, Lot, il suit Abraham. Abraham, à l'époque, il suit et il migre de région jusqu'au moment où ils vont passer, si vous suivez un peu la carte, hein, ils s'arrêtent par plusieurs points et ils vont aller en Égypte. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas s'arrêter sur celle-là. Et puis, ils vont quitter l'Égypte. Parce que on va les mettre, comment dire, on va leur dire, mais pars, parce qu'il y a l'histoire avec la femme d'Abraham, lui a dit, mais dis que t'es ma sœur, parce que comme ça on sera bien considérés. Et là, Pharaon, il va dire maintenant, partez, parce que si tu m'avais dit que c'était ta femme, tu m'as rien dit, et ils vont repartir. Et en fait, ils sont déjà passés près de cette région-là, et ils vont repartir. Sauf que le jour où Lot est arrivé en Égypte, ses yeux étaient bien ouverts. Et il a vu des choses. Donc Lot, on arrive à ce moment où il y a un problème au niveau des bergers, ils ont trop de biens, ils ont plus assez de terrain. Et là, Abraham va dire, bah, maintenant, il faut que tu choisisses. Où tu vas là, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais il faut choisir. Et donc c'est Lot a le choix entre ses mains. C'est lui qui décide à ce moment-là. Et là, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Retiens bien, c'était comme un jardin de l'Éternel, c'était comme l'Égypte. Il y avait les yeux ouverts en Égypte. Quel peuple en Égypte? Là-bas, il y avait la richesse, il y avait l'abondance, on vivait bien. Il y avait les crues du Nil qui faisaient que la famine, à chaque fois qu'il y a eu une famine, vous voyez dans la parole de Dieu, systématiquement, quand il y avait une famine, on allait où? On allait en Égypte. Parce qu'en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de manque. Et donc là, on va là parce que c'est un moment de famine. C'est pour ça qu'Abraham, il se dit, on va aller là-bas. Et là, il y avait les yeux bien ouverts. Il voit ce qui se passe. Mais là, il y a à manger. Là, les femmes sont belles. Hein? Les hommes. Là, il se passe... Là, il y a des belles activités. Il y a un cinéma là-bas. On peut s'amuser. Ils font des fêtes. Il a vu tout ça. Mais maintenant, c'est le moment de partir. Allez, partez. Et là, quand il doit faire son choix, il est animé de quoi, Lot? Il est encore en train de réfléchir et de se dire, j'étais vraiment bien là-bas. C'était vraiment pas mal. Pourquoi on a dû partir? C'est dommage. Et quand je tourne mes yeux, ce qui ressemble le plus à l'Égypte, c'est la plaine du Jourdain. Il y a de l'eau, il fait beau, la température est bonne, je veux aller vivre là. Et il va prendre sa décision en fonction de ce qu'il a vu, qui a germé dans son cœur, et en fonction de ce qu'il désire. Et là, il va choisir d'aller, où ça? Dans cette plaine. Genèse 14, verset 12. D'abord, il choisit, il s'avance, il lève les yeux, il choisit la plaine. En Genèse, chapitre 14, verset 12, « Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. » À partir de là, il s'est approché de Sodome. Ce que je veux relever là, c'est qu'il s'est d'abord approché, il a d'abord regardé, il a mis sa tente à la lisière de Sodome. Chaque fois qu'il se réveillait le matin, il levait le bazar et il voyait Sodome. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tentant. Jusqu'au moment où il s'est dit, « Moi, c'est vraiment une belle ville, je veux vivre au centre-ville. » Au début, on s'approche de la région, on met la tente, on a le regard, on a la belle vue sur la belle ville, et d'un coup, on finit au centre-ville. Et c'est comme ça que, tout doucement, l'histoire de Lot va nous montre une dynamique. Une dynamique où on commence à faire un pas, on engage le deuxième, et on finit dans un état où on ne contrôle plus rien. OK ? En Genèse chapitre 19, verset 1, on voit que les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Les anges ne m'intéressent pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est que Lot est assis à la porte de la ville. À l'époque, quand tu étais assis à la porte de la ville, ça voulait dire que tu étais quelqu'un de notable. Ça veut dire que tu avais réussi ta vie. Ça veut dire que tu faisais partie, entre guillemets, de l'élite. Incroyable, ça. D'abord, neveu d'Abraham, il se met à la lisière d'un pays qui est méchant devant Dieu, que Dieu ne supporte pas. Il ouvre ses yeux toujours devant ce même pays. Il finit au centre-ville et il finit président. je vous la fais grosse. Mais il finit notable, là. Considéré des gens qui y vivent, considéré par des gens méchants. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être considéré par des gens qui ne portent pas les mêmes valeurs que moi. Ça m'importe peu. Mais là, il était considéré, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien que quelqu'un lui dise que sa vie vaut quelque chose, que quelque part, il est quelqu'un. Ça nous montre et ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Parce que Lot n'est pas différent de toi et de moi. Il y avait deux jambes, deux bras, un même cœur, les mêmes, des pensées aussi. Il était attiré par certaines choses. Et Lot est comme nous. C'est une dynamique qui s'installe. Lot, il ne s'est pas installé soudainement dans le centre-ville. Il a glissé tout doucement, avec tout simplement animé par son regard et son désir quelque part de réussir, de vivre cette vie-là. Tout a commencé par un regard. Alors, je vous ai dit la semaine passée, imaginez votre vie comme... Il y a une cité à l'intérieur de toi, il y a un monde à l'intérieur de toi. Je vous ai dit, il y a ce qu'on voit, mais il y a tout ce que nous vivons au fond de nos cœurs, dans notre monde intérieur. Il y a une cité au milieu de toi. Et il y a des frontières claires. Il y a des frontières claires qui sont dessinées. Mais il y a aussi des espaces ouverts et il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans ton cœur? Je suis le seul. Il y a trop de gens saints ici. C'est une bonne église, hein, vraiment. Il y a des zones d'ombre dans ton cœur. Tu peux me dire ce que tu veux. Il y a des zones d'ombre. Et parfois, là où tu vas poser tes rêves, tes désirs, ce sera à la frontière d'un terrain dangereux. Tu vas déposer un rêve à la frontière. Tu sais que c'est dangereux, mais tu vas mettre ton rêve juste là. Et tu vas animer ce rêve-là, tu vas animer ce désir-là. Et finalement, tu vas finir au centre de la ville. Je vous ai dit la semaine dernière que les ténèbres répondent aux ténèbres. Ta zone d'ombre va répondre aux ténèbres. Lot n'était pas plus fort que Sodome. Peut-être qu'il pensait pouvoir vivre à Sodome. Peut-être qu'il pensait pouvoir travailler à Sodome et rester saint et clair devant Dieu. Mais les ténèbres de cette ville-là l'ont complètement englouti. Voilà pourquoi Jésus dira, quand tu crois que tu peux maîtriser ces choses-là, c'est que tes ténèbres sont très grandes. Tu vas te faire bouffer. Et Jésus nous l'a dit. Mais nous, on joue parfois avec le feu, on va mettre nos désirs et nos aspirations à la limite de ces zones-là que Dieu n'aime pas. Et où il sait très... Pourquoi Dieu n'aime pas ça? Parce qu'il sait très bien que tu vas finir mal. Mais nous, on veut essayer, tu vois, parce que peut-être que lui a raté, mais si Lot a raté, tu vas rater. Et quand on comprend ça, que c'est un exemple pour nous protéger de certaines situations, mais nous, on a envie d'essayer. Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie d'essayer des choses un peu... Ça agit comme un aimant, tu vois. C'est que ta zone d'ombre, elle peut être, si petite soit-elle dans ta vie, si petite, face à la grosse zone d'ombre là par laquelle tu vas t'approcher de plus en plus, à un moment donné, chac, il y a une puissance. Vous la connaissez, vous avez déjà pris deux aimants, on a tous joué à ça quand on est enfant. On essaye, et vous se dites, à un moment donné, je vais réussir à les retenir. Dès que vous approchez trop proche, vous êtes complètement embarqué. Et bien la zone d'ombre dans le cœur de l'homme, c'est la même chose. Et c'est ça que Satan va toujours utiliser. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il sait comment commencent les choses, par les yeux. Eh bien, notre cœur fonctionne de la même façon. Tout ce qu'on va tolérer en périphérie finit presque toujours au centre de nos vies. Le petit truc que tu tolères, le petit péché, la petite délicatesse que tu vas tolérer tout un temps, va finir avec le temps, si tu gardes ça, au centre de ta vie. Quand on flirte avec certaines idées, on se brûle. On doit faire attention à nos pensées. Ça descend au fond du cœur. Alors Jacques 1, chapitre 1, versets 14 à 15, nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible est claire. La parole de Dieu, le Dieu vivant, dit que le péché va produire la mort spirituelle dans ta vie, qui que tu sois. Et qu'il y a dans ton cœur cette convoitise. Il y a dans ton cœur des choses que tu dois gérer. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, c'est la mort. La tentation n'existe pas seulement à l'extérieur, elle existe à l'intérieur de ton cœur. C'est pas que souvent on dit la tentation, c'est à l'extérieur, c'est la vitrine qui m'attire. Non, il y a des choses à l'intérieur de ton cœur et tu as besoin de gérer ça. Et la tentation extérieure va dialoguer avec la tentation intérieure. Et c'est ce qui fait tomber. Ce matin, on priait à l'intercession et il y avait une pensée, Seigneur, nous prions pour... aidez-moi, ceux qui étaient à l'intercession, mais c'était pour tous ceux qui sont angoissés, qui vivent des moments d'incertitude, de crainte. Et la pensée que j'ai reçue dans mon cœur, c'était celle-là. Et vous voyez, des fois, j'aime être doux, j'aime être bon, mais j'ai dit, Seigneur, il y en a qui vivent de l'incertitude, qui vivent de l'angoisse, qui vivent parce qu'ils ont choisi. Et moi, je dois prier pour ça maintenant. Tu as choisi de flirter avec des choses, du coup, ça t'angoisse, ça te rend mal, tu perds la paix. Et maintenant, on doit prier. Comprends ce que je veux dire. C'est qu'il y a nos choix. quand on sent qu'il y a quelque chose en nous et puis on s'approche, peut-être que je vais y arriver, peut-être que je vais y arriver, on va être attiré. C'est le cœur de l'homme qui est fait ainsi. La parole de Dieu nous en parle clairement. Elle nous dit tous ont péché. C'est la dynamique de l'aimant. À l'extérieur, c'est les occasions séduisantes, c'est les promesses d'accomplissement, d'acceptation, de reconnaissance, de plaisir. C'est tout ce qui nous est proposé. On nous propose beaucoup de choses. Si tu viens là, tu seras reconnu. Si tu viens là, tu auras beaucoup de plaisir. Tu vivras la belle vie. Si tu viens là, tu auras la réussite. Ça, c'est toutes les tentations extérieures. Ah, ça me fait frétiller, ça m'émoustille. Mais tout ce qui est à l'intérieur, ça va être ce qui vient de l'intérieur, c'est le besoin de combler ce manque-là. Et ça répond à ce qu'on nous propose, tu vois. C'est le besoin de combler un manque, d'être vu, de réussir et de tout contrôler. On en a parlé hier. Là, j'aurai le contrôle. Là, ça ira bien. Genèse, au chapitre 4, verset 7, nous avertit. Le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché est tapis à ta porte. Cet aimant, il est là. Il est là. Il attend que tu viennes proche. Vous imaginez ? Satan qui est là, qui rôde. Il dit, vas-y, approche-toi un peu plus près, approche-toi un peu plus près. Parce que quand tu es dans le domaine du royaume, dans le royaume du roi, je ne peux rien faire. Mais approche-toi à la frontière, je vais te choper là. Et puis, tends un bras, il t'attrape. C'est toujours comme ça que ça commence. Alors, pour le disciple de Christ, même lavé, scellé par l'Esprit, on a encore des espaces non entièrement soumis à la volonté de Dieu. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons soumettre au fur et à mesure de notre vie chaque espace, chaque espace, chaque espace, chaque pensée à la volonté de Dieu. La tentation nous parle, elle nous provoque à l'intérieur et on croit pouvoir travailler avec. Alors, on va prendre Genèse 13, verset 10, encore une fois. Entièrement arrosé. Il vit le jardin comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Fais attention à tout ce qui se passe devant toi. Parfois, tu as l'impression que c'est la volonté de Dieu, tu vois. Ah, dans ce travail, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et puis, pour toi, c'est l'Eldorado, tu vois. Et pourtant, parfois, ce n'est pas le cas. Ah, dans telle situation, je sens que machin, et puis mes yeux se tournent. Remets ça dans la prière. Seigneur, est-ce que vraiment c'est l'endroit où je dois vivre? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où je dois m'installer? Parce que je ne veux pas troquer la vie, la paix, la joie, l'espérance que tu me donnes pour un gain matériel qui finalement entraînera ma perte, pour un plaisir qui sera, éphémère, mais qui va finalement disparaître et après je serai mal, tu vois. Eh bien, c'est ça, c'est la contrefaçon de Satan. Satan nous propose constamment des contrefaçons. Viens là! C'est aussi beau que dans le jardin de l'Éternel. C'est aussi bien que dans ta vie de prière. C'est aussi bien que quand tu es dans la communion fraternelle avec tes frères. C'est aussi bien que ceci. C'est même mieux parce que c'est plus rapide. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent, tu vois. Ça coûte de venir à l'église. Ça coûte de se garer puis faire 10 minutes à pied dans cette salle. Ça coûte de venir à une intercession. Ça coûte de louer le Seigneur chaque matin. Mais quel péché! Et quand on s'habitue à cette paix-là, à cette joie-là, parfois on la troque facilement pour un plaisir rapide. C'est ce que nous propose ce monde, c'est la réalité. Le cœur veut ce qui paraît bon. On doit comprendre que notre cœur veut, à cause de cette mauvaise semence du malin, il veut ce qui paraît bon aux yeux, mais qui est hors de la lumière. Et quand c'est hors de la lumière, eh bien ça devient du poison pour ta vie. Ça va ? Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus par rapport à ça ? Face à ce processus, Jésus connaît très bien ce processus. Parce qu'il était lui-même sur terre, il a eu la même chair que toi et moi, il a eu les mêmes tentations que toi et moi, ô combien plus grandes, et lui, il a dominé. Et en fait, Jésus, ce qu'il va proposer pour nous, pour chacun d'entre nous, il va nous proposer une autre dynamique. Il dit, cette dynamique-là, tu ne peux pas y résister parce que ta chair est marquée par le malin. Et lui, il rôde et il attend que tu tombes dans ces choses-là. Mais moi, je vais te proposer une autre dynamique. Une dynamique nouvelle pour ton cœur. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se décharge de sa croix et qu'il me suive. Alors on a prié pour ça ce matin aussi. J'étais étonné, je dis Seigneur, à chaque fois tu conduis les choses. On a prié effectivement, c'est Jean qui a donné ce verset qui dit que quand on veut ce trésor, vous connaissez cette parabole de Jésus, on va vendre tout ce qu'on a pour ce trésor. Quand on a chanté ce matin, quand je comprends, je considère, je ne sais plus c'est quoi les paroles exactes, mais que tu es bon, c'est ça de comprendre, il y avait ce mot-là. J'ai compris qui tu étais. Quand tu comprends qui est Jésus, quand tu comprends tout ce qu'il peut te donner, qui te libère de tout, tu es prêt à vendre toutes ces choses-là. Ça veut dire que tu abandonnes complètement qui tu étais même, l'identité que tu croyais t'avoir construite. L'évangile est fou. Je suis qui je suis, j'ai tel caractère. Et là, vends tout ça, parce que tout ça, face à ce grand trésor, c'est rien. C'est ce qu'on a vécu, non? Et là, on doit abandonner des choses. Parfois, ça fait mal. Mais je dis toujours, si tu abandonnes des choses pour vivre la misère spirituelle parce que tu n'es pas à 100%, abandonne. La Bible, elle est claire. Il vaut mieux être froid ou brûlant. Tiède, c'est horrible. Être entouré de deux chaises comme ça. Donc, c'est soit tu vends tout, tu vas à fond avec Jésus, soit tu laisses tomber. Parce que tu vas mal vivre. Ce sera compliqué. C'est la compromission. Jésus est l'anti-centre-ville de Sodome, tu vois. Il dit, regarde, viens de l'autre côté. Là, il y a autre chose. Il ne joue pas avec les zones grises. Retiens ça dans ta tête. Jésus ne joue pas avec les zones grises. Quand tu es dans une situation où tu dis, est-ce que c'est Dieu? Mais peut-être, mais je vois que... Moi, c'est les jeunes qui me disaient, ouais, mais moi, je vais aller en boîte de nuit, je vais évangéliser en boîte de nuit. Ben, va en boîte de nuit, on va voir comment tu vas finir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, on est comme ça, nous. On a un truc qui nous attire, mais on utilise la volonté de Dieu pour dire, peut-être c'est la volonté de Dieu. Si c'est gris, c'est pas Dieu. Retiens dans ta tête, si c'est gris, c'est pas Dieu. Le gris amène au noir et il amène pas au blanc. OK? Si c'est gris, c'est pas Dieu. C'est pas pour toi. Et ce sentiment qu'on a parfois, est-ce que c'est Dieu? Peut-être que... Ah, c'est pas Dieu. Par contre, quand ça coûte, quand c'est difficile, quand tu sais que tu vas galérer, quand tu sais que c'est pas ce que t'aurais choisi, mais que tu sens qu'il y a une paix, là tu fonces. Tu réfléchis plus. Je parlais à quelqu'un mercredi, je sais pas si la personne est là, elle me dit, mais je sais pas, dans mon boulot, on me présente ça. Mais je dis, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, ce serait comme ça, comme ça. Là, c'est pas Dieu. Ah ouais. Ben ouais. Des fois, ce n'est pas compliqué, mais on complique. Et ce n'est pas révélation du Saint-Esprit, c'est juste la parole de Dieu. Si c'est gris, ce n'est pas Dieu. Alors, Jésus dira, Jean 8, 12, on le connaît, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Quand on vit avec Jésus, il y a cette lumière. On ouvre les volets, là, on ouvre les... Et puis ça nous remplit. On est des êtres qui sentons les choses, d'accord? Et on a besoin de sentir cette présence, on a besoin de vivre cette présence, de connaître cette paix, de connaître cette joie que de dire, Seigneur, je suis prêt à plus rien avoir, mais si je n'ai que toi, je serai le plus heureux du monde. Et quand tu arrives à dire ça, Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon Maître, après Dieu, il libérera tout ce qu'il a à libérer pour toi, mais tu n'as besoin que de lui, ton identité est en lui. Ton identité n'est pas ce que les gens voient de toi, ce que les gens disent de toi, ce que ton diplôme dit de toi, mais c'est ce que Jésus dira de toi. Et là, tu dis, ah, quelle liberté. On ne veut pas négocier avec les ténèbres qu'il y a en nous, ok? Alors, maintenant, on va aller voir, je vais avancer encore un petit peu. Qu'est-ce que c'est réellement notre nouvelle identité en Christ? Quand Christ nous appelle, ce n'est pas juste pour une vie morale, certaines règles, des choses à suivre, c'est bien plus que ça. Jésus, vous vous souvenez, il a souvent dit « suis-moi ». Regardez, « suis-moi ». Vous vous souvenez aussi de tous ces « venez ».« Venez à moi, vous qui êtes. Venez à moi, machin. Venez, venez, venez. » Jésus est là, il dit « mais c'est à toi de venir ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à toi d'ouvrir les rideaux. Il est là, ouvre les rideaux, venez. Ça nécessite un choix. Comme Lot a levé les yeux et a décidé d'aller vers Sodome, même si au début, il ne s'est pas dit, je vais aller en centre-ville, mais je vais aller goûter. Ben, toi, à un moment donné, tu as le choix de dire, Jésus, je vais essayer. Moi, je me souviens de Julien. Vous voyez le batteur, Julien? Julien, je peux parler de toi? T'es où? T'es où? Ah, j'étais là. Moi, je me souviens de Julien. Julien, je l'ai rencontré, il ne connaissait pas Dieu. Il était en train de m'embarquer Noémie, là. J'ai dit, c'est pas possible. Il travaillait au printemps. Et puis, il était beau, hein, toujours comme aujourd'hui. Moi, je l'ai appelé, c'est un bel homme, vous voyez. Je lui ai dit, toi, tu es le top modèle des chrétiens, tu vois. Tu représentes bien les chrétiens, tu es bien habillé, tu n'es pas comme moi avec les cheveux. Tu vois, c'est classe, c'est chic, c'est beau. Et puis, il ne connaissait pas Christ, il rencontre Noémie. Noémie, elle venait vraiment d'être touchée par la grâce de Dieu. C'était compliqué, elle a mis du temps. Elle a été touchée un jour, elle était sur son lit, elle a senti l'amour de Dieu, elle s'est mise à pleurer. Elle est arrivée un matin, elle m'a dit, Alexis, je veux témoigner, donne-moi le micro. Elle a dit, mais Jésus m'a sauvé, je l'ai rencontré. J'ai dit, waouh. Vous voyez, ce n'est pas juste, je suis une religion. Elle a été touchée par Jésus-Christ lui-même. Incroyable. Alors, vous avez tous un merveilleux témoignage. Mais je me souviens de Julien. Et Julien, il arrive beau comme il est. Et puis, il dit, celle-là, je vais l'emballer. C'était comme ça dans ta tête. Hein, tu voulais l'emballer. Et puis, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Seigneur, elle vient de te connaître. L'autre, il débarque avec son beau costard. Et ça va être si facile. Et puis, Noémie, elle a commencé à marcher à la lisière. Elle marchait à la lisière, là, à la frontière. Ah, mais je l'aime bien, mais machin. J'ai dit, Noémie, donne-moi son numéro de téléphone. Je vais aller lui parler. C'est la première fois, la seule fois que j'ai fait ça. Et je l'ai invité à boire une bière. On a pris une bonne chope. Pour les chrétiens qui n'aiment pas la bière, moi, j'aime bien la bière. Mais une seule, hein. Et puis, du coup, j'ai pris ma chope de bière. Et là, il me parle. Et je dis, Seigneur, il faut que je lui parle. Et je lui dis, écoute, tu sais que cette fille-là, que tu es en train de convoiter, je vais te dire ce qu'elle n'osera peut-être pas te dire à l'heure actuelle. Eh bien, elle est chrétienne, elle aime Jésus et son premier amour, c'est Jésus. Et sache qu'elle ne couchera pas avant le mariage. Je m'attendais à ce qu'il prenne la chope. Parce qu'elle va être droite devant Dieu. Là, il m'a regardé comme ça. Puis il m'a dit, tu sais, j'ai tout essayé dans ma vie. J'ai touché à des choses, j'ai essayé de construire. Je n'ai pas réussi. Et si avec Dieu, je peux essayer, eh bien, je veux bien essayer. Je veux bien goûter. Vous voyez, il a choisi de tourner son regard vers quelque chose d'autre. Il a choisi de détourner son regard du fonctionnement de ce monde et de se dire, peut-être que cette façon de fonctionner, ça peut m'apporter quelque chose où je vais me sentir vivant. Et puis, on a prié dans la voiture, Dieu l'a visité. Tu te souviens, Julien? Quel moment incroyable. J'ai dit, je suis rentré dans sa voiture, on va prier ensemble. Et puis, on a prié ensemble. Il a été touché par la grâce de Dieu. Et ça n'a plus jamais été le même homme. Plus jamais. Bon, il y a encore imparfait, mais vous le connaissez tous. Pourquoi je prends quelqu'un comme ça que vous connaissez? Parce que c'est quelqu'un que vous voyez à l'église, qui grandit dans la foi et qui a détourné son regard du péché. Ça marche? Alors, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il soit capable d'abandonner. Lui a dit, je suis capable d'abandonner. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors, ce que Dieu veut nous donner, c'est une nouvelle naissance. La Bible nous en parle. C'est une nouvelle identité. C'est un nouveau moi. Quelque chose de différent, de radicalement différent. Ce n'est pas on va s'améliorer à gauche, on va s'améliorer à droite, et puis je garde ceci, mais je fais ma popote interne. C'est écoute mon fils, quand tu dis à Jésus, viens dans ma vie, c'est Dieu va dire au travers de son fils, écoute-moi maintenant. J'ai prévu des choses pour toi là où tu vas être profondément heureux dans la joie et profondément dans la paix. Est-ce que tu acceptes de suivre ce chemin-là? Par contre, dans ce monde, ce chemin est difficile. Parce qu'il n'y a personne qui veut de ça. Mais toi, si tu as le courage d'accepter ça, tu vas vivre une vie nouvelle. Ça va être compliqué. Tu vivras contre-courant. Comme on l'a dit, hein, y en a un qui va te réclamer pour te secouer. Mais avec moi, il y aura toujours cette lumière qui va briller. Tu n'auras jamais ces temps de dépression où tu ne sauras pas qui tu es, tu es malheureux, machin. Tu n'auras pas toutes ces attirances. Mais tu vas vivre cette profondeur de mon amour. Et ça, ça va te faire du bien. Qui ne veut pas être aimé profondément? Personne. On veut être aimé. Et en Jésus-Christ, c'est possible. Et c'est ce qu'il nous propose. On devient l'habitation du Saint-Esprit. On vit des choses nouvelles. Dieu attire aussi, la lumière de Christ attire. Jean 12, verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand on ouvre les yeux, quand on se dit « Seigneur, peut-être que je ne suis pas là pour rien, peut-être qu'il y a un créateur, peut-être qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Eh bien, Jésus, je veux me tourner vers ton message qui est immuable, universel.
et vous vous sentez attiré à quelque chose qui, peut-être pas, pourquoi pas? Et Julien m'a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais essayer. Il a essayé, il est heureux. Je l'avais encore cette semaine au téléphone, puis il me dit, ah, oh, mais qu'est-ce qu'on est béni. Mais qu'est-ce qu'on est béni. Ils me disent, mais c'est plus le même homme. Et à chaque fois que je l'entends, je dis, mais Seigneur, comment tu l'as transformé? Tu l'as transporté, c'est ce verset, tu l'as transporté des ténèbres à la lumière. Et c'est ce que tu as connu, c'est ce que j'ai connu. On l'a connu, qui l'a connu? Moi, j'ai connu. Mais parfois, on marche dans les zones grises. Faisons attention aux zones grises. Romains 8, verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Un esprit d'adoption, ce n'est pas merveilleux ça? Maintenant, Jésus-Christ a un frère. Ce frère devient ton ami. Et cet ami te révèle l'amour du Père. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est merveilleux, une relation avec un frère. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon frère, là, ça fait 2 ans. Et ben, j'ai développé ma relation avec lui parce qu'il avait pris du... Il avait besoin de travailler, donc je lui ai donné 2 années de travail. Et donc, on a fait beaucoup de chantiers ensemble. L'amour d'un frère. J'aime l'amour d'un frère. L'amour d'un père est encore différent. En Jésus, tu découvres, tu découvres tout ça. Quand tu n'es pas content, là, que c'est difficile, tu vas voir Jésus, écoute, c'est dur là dans ma vie actuellement, tu lui parles comme à un frère, tu vois. Tu ne passes pas par 4 chemins. Devant le Père, tu fais attention parce que il y a l'autorité du Père. Mais le frère, tu vois, il y a une liberté comme ça. Je ne sais pas si tu n'as pas de frère, bah, je suis désolé, mais excuse-moi, mais je ne peux pas te l'expliquer différemment. Mais si tu as un frère, une sœur, tu as une bonne relation, voilà, tu peux parler de certaines choses. Tu sais que tu vas être compris, qu'il n'y a pas besoin de mettre de forme, que... Tu peux aller droit au but. Avec Jésus, tu peux aller droit au but. Tu peux lui parler. Moi, des fois, je me bagarre avec Jésus. Je dis, écoute, j'en ai marre, ça m'énerve. Je parle comme à mon frère. Mais quand je parle au Père, je fais attention. Parce que je sais que quand lui, on lui récalque des choses, fais attention parce que des fois, il nous prend en mot. Une fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin, je parle à Dieu, je dis, Dieu, j'ai besoin que tu me secoues. J'ai demandé ça le mardi. Pour ceux qui étaient là à l'intercession, il y avait Esteban Massio qu'on avait invité. J'ai été secoué. Il m'a pris, il a pris ma tête, il m'a jeté par terre. Je suis tombé dans les chaises comme ça. Je dis, mais c'était pas le Saint-Esprit, ça. Comme ça, j'étais pas content. Je dis, c'est quoi, ça? Pourtant, 5 ans auparavant, j'avais été touché avec lui. Mais après, Dieu m'a dit, tu te souviens ce que tu m'as demandé? Tu m'as demandé de te secouer. Et au moment où je suis tombé par terre, il y a quelqu'un qui a vu que le sol s'effritait, vous voyez, comme des... Dieu avait fait quelque chose dans mon cœur. Tu vois, quand je te parle, quand tu demandes, je fais des choses, mais fais attention à ce que tu demandes. Avec le Père, il faut faire attention. Éphésiens 4, verset 22-24. Vous avez appris à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité de la parole de Dieu va produire l'homme nouveau. Et pour vivre vraiment cette vie profonde avec l'esprit, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Si tu es à la lisière, dans le compromis, dans le machin, tu t'éloignes, tu t'approches de Sodome. C'est comme un équilibriste, tu vois, tu es là et puis tu joues au malin, sauf que c'est systématiquement là que tu tomberas. Tu dois vraiment rester dans cette parole qui te transforme, qui te permet constamment chaque matin de dire, voilà, l'homme nouveau, il est là, l'homme ancien, tu t'es, t'arrêtes de m'embêter, reste ici. Moi, je domine. Le péché tapis à ta porte, c'est à toi d'en être le maître. C'est toi le patron. J'aime bien cette pub. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Et des fois, on a besoin de dire ça à nos âmes. C'est moi le patron. Ce sentiment, tu dégages. Cette pensée, tu n'as pas ta place. L'autre, tu aurais dû dire, cette pensée, elle n'a pas sa place. Je ne rentre pas dans cette ville. Elle n'aime pas Dieu. Ce n'est pas ma place. Moi, j'aime le Seigneur. Ouais, mais ils font des super fêtes, du coup, je peux peut-être aller goûter. On s'en fout si les fêtes, elles sont bien. On t'attend là-haut dans une fête magnifique qui va durer l'éternité. Elle est là-bas, ta fête. Mais ça a besoin d'être enraciné dans ton cœur pour dire, stop, Seigneur, je revais l'homme nouveau. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. On a été greffé. Ensuite, Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté, c'est pour toi, c'est pour l'enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin d'être dans toutes sortes de choses. En Jésus-Christ, tu es libre. Christ t'attire dans l'humilité. Il te sort du besoin de plaire aux hommes. Il vient casser cette identité de surface. Il t'attire vers une liberté tranquille, d'être tranquille dans la présence de Dieu. Il te donne cette sécurité invisible. Quand tout le monde panique, toi, tu as une sécurité en toi. Est-ce que tu vis ça? Si tu ne vis pas, il faut le réclamer parce que c'est en Christ, ces choses-là. Ensuite, quel est notre objectif? 1 Pierre, verset chapitre 2 à 9. Alors, je rapporte beaucoup de choses, mais l'objectif, c'est qu'on aille au bout. Alors, Christ n'a pas sauvé Lot pour l'abandonner. Okay? Quand Christ te sauve, te libère, t'amène, te donne ton identité, il ne donne pas ça pour t'abandonner et te dire maintenant, débrouille-toi dans ce monde-là, ça va être la galère, gère-toi tout seul. Non, Christ est avec toi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Si ça se vit pleinement, ça se voit. Est-ce que tu connais profondément la lumière de Christ dans ta vie? Est-ce que tu la vis tous les jours? On est appelé à la vivre tous les jours. Dans les temps qui courent, ça va être de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. On ne peut plus se permettre d'être dans les zones grises, on ne peut plus se permettre de jouer à un jeu dans certains domaines. On est des enfants de Dieu, une race élue, on a un objectif. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous sommes porteurs de sa présence, nous sommes le sel dans notre façon de parler. Hier, je vais au foot, je dis mais punaise, ce n'est pas possible. Et puis les enfants, ils ont perdu. Alors effectivement, ils ont pas bien joué. Et puis j'ai une maman qui est là, elle s'énerve contre l'arbitre et machin, et de toute façon, lui, c'est un clochard et machin, et l'insulte. Et je dis, Linda, arrête de parler comme ça! Je supporte même plus ça, tu vois. Pourquoi tu critiques? À un moment donné, je dis, Seigneur, garde mes mots parce que ça m'agace. Est-ce qu'ils ont bien joué, les garçons? Pas tant que ça. Eh bien, s'ils ont perdu 1-0, c'est pas à cause de l'arbitre. Ils avaient qu'à mettre 4 buts s'ils voulaient gagner. Ils ont mal joué, ils peuvent en vouloir qu'à eux. Et moi, mon fils, c'est ce que je vais lui dire. Et mon fils est rentré dans la voiture. T'as bien joué? Non. Voilà, des fois, on joue mal. T'as perdu, c'est tout. Je ne vais pas critiquer l'arbitre. Et clochard et machin et ceci et cela. Arrête de critiquer. On vit dans ce monde-là qui critique tout le temps. On n'est pas appelé à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand on est trop là-dedans, à un moment donné, nous aussi, on critique. Ouais, t'as vu Lévi ce matin, machin. Et c'est quoi ça? Et puis après, ça rentre dans l'église. Et on se critique les uns les autres. Ça, c'est dans le monde, ce n'est pas pour nous. Ça marche? Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Je vais prier une prière. Et j'aimerais que ce soit ta prière. Alors, chaque phrase que je vais dire, tu la mesures dans ton cœur et tu ne la pries dans ton cœur que si tu es d'accord avec elle. C'est ton engagement envers Dieu. C'est ton choix. C'est pas le mien. Faut pas répéter ça par devoir. C'est personnel. D'accord? Alors, merci Seigneur pour ta présence déjà. Ici, sans toi, on ne peut pas faire grand-chose. Sans toi, on est limité. On l'a lu hier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, on peut faire de grandes choses. Tu nous appelles même à faire de plus grandes. On veut vivre cette vie. Mais Seigneur, on veut prier cette prière qui est pour nous une repentance, mais en même temps un engagement. Alors Seigneur, je reconnais que j'ai souvent cherché mon identité. Mon bonheur. Et mon accomplissement ailleurs qu'en toi. Attire-moi profondément vers ta lumière aujourd'hui. Fais de moi quelqu'un de vraiment nouveau. Au point qu'on ne voit plus en moi ni Sodome, ni l'ancien, mais le reflet de ta grâce et de ta puissance. Amen. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Je ne sais pas pourquoi tu voulais qu'on parle là de Sodome, mais ce matin, si quelqu'un fait un engagement dans son cœur de te suivre plus, on veut sortir de là, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui ont planté, Seigneur, une tente trop proche, Seigneur, de la frontière. On n'est pas en camping avec toi, Seigneur. On s'installe, tu nous as assis dans ton palais royal. Alors on ne veut pas camper là, dans ces zones de non-droit. Alors Jésus, aide-nous en tant que tes enfants, dans le contexte, le climat actuel, à être, Seigneur, vraiment, Seigneur, selon ton cœur, une lumière des ambassadeurs. Une vraie génération, Seigneur, qui se positionne pour toi. Seigneur, aide les jeunes, là, Seigneur, les jeunes gens, là, au lycée, à la fac. Seigneur, vraiment être attaché à toi, là où il y a la tentation, là où on leur propose beaucoup de choses. Seigneur, que réellement leur cœur puisse être profondément, Seigneur, touché par ta grâce. Seigneur, cette grâce qui nous libère, qui nous donne vraiment cette appartenance à toi, Seigneur, que vraiment on puisse être... on puisse voir cette génération de jeunes, Seigneur, enflammés pour toi. Ils vivent cette profonde paix, que ça se voit, que ça se sente, que ça s'entende. Je te prie pour les vieux chrétiens, les vieux routiers, comme on dit, Seigneur, qui savent, qui connaissent, qui pour eux ce matin, il n'y a rien de nouveau. Mais Seigneur, avec toi, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Tes paroles étaient tellement simples. Tes enseignements, Seigneur, touchaient n'importe qui, mais ça touchait le fond du cœur. Parce que tu sais que c'est de là que sort la vie. Tu sais que c'est de là qu'il y a la clé. Là où on s'est habitué à certaines situations, Seigneur, on veut reprendre position, on veut reprendre du terrain. On ne veut pas, Seigneur, tolérer certaines choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, merci parce qu'on est tes frères. Merci parce qu'on est ton ami. Merci, nous sommes tes amis. Et merci, mon Dieu, parce que nous sommes tes enfants. Et tu nous aimes de cet amour qui nous comble, Seigneur, de toutes choses. On n'a rien besoin de plus. On n'a rien besoin de plus que ta grâce. Alors merci Jésus pour ce matin. Sois béni, sois élevé cette semaine dans nos vies et dans nos cœurs. Amen.